C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Albert Cohen, 1895-1981, né à Corfou, de nationalité ottomane devenu suisse, écrivain, diplomate, de confession juive, hétérosexuel. Œuvre, Belle du Seigneur, 1968. Personnage, Adrien Dehm. Adaptation au cinéma, un film de Glénio Bonder en 2012, où le personnage d'Adrien Dehm est interprété par Ed Stoppard. Dans Belle du Seigneur, Albert Cohen a manifestement voulu écrire une chartreuse de Parme avec des personnages à la recherche du temps perdu. Solal et Ariane sont comme Fabrice et Clélia, médiévalement enfermés dans leur refuge comme les soupirants de Stendhal dans leur tour. Solal, à l'instar de Fabrice, est maladroit et fougueux, mais il élève la passion d'un degré. C'est un rongé, un emmerdeur, jamais content, même quand il a tout. C'est dans les autres personnages du roman qu'Albert Cohen est en quelque sorte proustien, chose qu'il n'aimerait pas entendre car Belle du Seigneur n'envoie pas moins de 3 jets de venin contre Proust. C'est à la famille Dehm que je pense. Il me paraît évident que pour Madame Dehm, cette bourgeoise qui se croit chic parce qu'elle dit potage au lieu de soupe, il a voulu faire une sorte de Madame Verdurin. Son fils Adrien est sans doute sa plus originale création, un imbécile comme il y en a peu, un imbécile succulent, un imbécile poétique. Il est bête, il est incompétent. Étant incompétent, il cherche des codes, les codes secrets qui le mèneront aux étages supérieurs. Il n'est pas sûr de lui. Adulte, il a conservé son ourson en peluche d'enfant. Trompé par sa femme, il se suicide. Voici les derniers mots de Belle du Seigneur à son sujet. Le front sur le tabouret, entre les pattes de l'ourson, il entra dans la chambre chaude de son enfance. L'histoire, si par hasard on ne la connaissait pas, se passe en Suisse, entre les deux guerres mondiales, et est la très simple relation du cocuage d'Adrien Dehm par Solal, qui couche avec sa femme Ariane. Coucher est un verbe bien trivial pour le flamboyant amour qui s'ensuit, un amour velouté, bleu nuit et déchirant. Ce cocuage magnifié en une histoire baroque, c'est un peu comme si le cocu magnifique de Crommelinck se transformait en Tristan et Iseult. S'il y a l'amour, il y a aussi la farce. Et l'amour est d'autant plus beau que la farce était énorme. Albert Cohen n'était pas très pro-français, je n'y mets aucun reproche, c'était bien son droit, surtout après la façon dont tant de Français avaient traité les Juifs pendant la guerre, et puis d'abord, il était Suisse, natif de Corfou. Il est pourtant très français par son sens, je dirais presque sa passion du ridicule, en particulier dans ce personnage d'Adrien Dehm qu'il ridiculise en permanence, tandis que l'élan vers le pathétique, car à la fin Adrien Dehm devient pathétique, serait, si je pense à Rousseau, sa partie suisse. Je généralise beaucoup en disant cela et je suis prêt à le contester moi-même. Qui est Adrien Dehm? Pour en parler, je reçois Philippe Zard, éditeur de Solal et les Solals dans la collection Quarto chez Gallimard. Philippe Zard, à quoi ressemble Adrien Dehm physiquement?
Adrien Dehm est d'un physique tout à fait banal, comme le personnage. C'est-à-dire que Cohen, qui le caricature beaucoup, ne l'a pas du tout maltraité physiquement. C'est un homme ordinaire, plutôt de belle apparence, avec ses ridicules que l'on découvre au fur et à mesure. Mais enfin, son ridicule ne se situe pas là, sinon peut-être dans un détail sur lequel Cohen revient avec une sorte de délectation, qui est sa petite barbiche.
Oui, son collier de barbe.
Son collier de barbe qui lui donne une sorte, qui est censé en tout cas lui donner quelque chose de viril, alors que nous allons sans doute y revenir, Adrien a une carence de virilité. Et il est constamment à affecter des postures viriles que précisément il prend soin d'entretenir afin de pallier un déficit évident de force, de virilité, de fermeté.
Son collier de barbe est peut-être aussi un attribut d'intellectualité, car il en a un autre en tout cas qui n'est pas physique mais qui le complète, et qu'il fume la pipe. Et j'ai un peu l'impression que Cohen par ça a voulu signaler qu'il voulait un peu faire l'intellectuel, ou je me trompe?
Alors, vous avez dit deux choses très justes. Vous avez d'abord employé le mot « faire ». C'est un des mots un des verbes qui est le plus souvent employé à propos d'Adrien. Il s'agit de faire viril, de faire chic, de faire à la mode, etc. Et il est constamment dans l'affectation. Mais vous avez ajouté, en effet, que Adrien se donne des airs d'intellectuel, de la même manière qu'il se donne des airs de grand fonctionnaire. Il a la pipe, il a la canne, C'est l'attribut premier qui est signalé de lui, sa grosse canne. Et il a aussi toutes sortes d'objets qui lui sont affectés. Une agrafeuse, notamment, dont il fait quasiment une arme de combat. Et Adrien est un homme qui s'accompagne, qui se fait escorter constamment par une cohorte d'objets qui sont là pour remplir une sorte de vide ontologique.
On va parler de son métier, mais quelle est l'origine de ce nom de Deume et de son prénom, si tant est qu'on en sache quelque chose?
Alors oui, on en sait quelque chose. La première occurrence d'Adrien, je dirais que c'est sous sa déclinaison féminine, puisque dans Solal, 1930, la première amante de Solal s'appelle Adrienne. Et donc Adrien apparaît presque déjà comme la masculinisation d'un prénom féminin, presque à l'inverse donc de la réalité étymologique. Mais bien sûr, Adrien, c'est surtout dans l'imaginaire cohénien le nom d'un empereur, le nom de l'empereur romain, et pas de n'importe quel empereur, l'empereur romain qui a écrasé la Judée. Donc c'est l'ennemi, d'une certaine manière, au moins au départ, hein, on nuancera.
Ça, c'est une interprétation que vous donnez ou c'est une chose que Cohen a dite?
Alors, Cohen ne l'a pas dite, mais il est un fait que dans toute son œuvre romanesque, le mot Adrien est un négateur de judéité. Exemple, il y a dans Manche-Clou, il est fait mention d'un romancier juif qui a changé son nom, parce qu'il c'est un renégat. Et quel nom a-t-il choisi? Adrien de Nobancourt. Adrienne est celle qui va arracher le jeune Solal à sa tribu. C'est donc, elle est vue, en effet, au départ, comme une ennemie.
Car il est dit plusieurs fois dans le livre que Solal a une passion, c'est qu'il couche avec des femmes qui ne sont pas juives.
Absolument, il a une passion pour les femmes non juives, pour les belles chrétiennes, souvent les belles protestantes d'ailleurs, plus exactement. Donc oui, Adrien est un nom négateur de judéité. Et bien sûr, Adrien, ce pauvre Adrien qui a un nom d'empereur, est un Adrien le Petit. Hein, comme il y a des Napoléons le Petit, c'est un Adrien au petit pied. Et c'est surtout un empereur du néant, un empereur du vide.
Et Deume, est-ce qu'on sait comment Cohen l'a formé?
Alors Deume, là aussi nous sommes plutôt dans les hypothèses, mais relevons que Ariane, qui est une aristocrate, s'est déclassée en épousant Adrien, et que le nom d'Adrien commencerait comme un nom d'aristocrate, Adrien II, mais ça se termine comme une injure estropiée, Adrien II, de mes fesses, hein, de mes deux, etc. Et une des injures favorites d'Adrien, c'est de mes fesses.
Parce que je me demandais si c'était pas une espèce de jeu de mots sur la sonorité, un peu comme dans les parapluies de Cherbourg sur dame. Est-ce que dame pourrait pas être une dame parce qu'il est un peu chapon cet Adrien?
Il est très chapon, je n'y avais pas pensé, mais ça concorde tout à fait avec ce qu'on peut dire en effet sur le déficit de virilité d'Adrien.
Alors cet Adrien, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça se passe entre les deux guerres mondiales si par hasard on ne le savait pas, et il a un métier, il est fonctionnaire à la Société des Nations, n'est-ce pas?
Il est fonctionnaire à la Société des Nations et cela donne licence à Albert Cohen, qui connaissait parfaitement bien ce métier. Il n'a pas été à la Société des Nations, mais au Bureau international du travail.
Et après la guerre, hein, n'est-ce pas?
Non, avant déjà.
Ah oui,
avant,
mais après déjà. La guerre, il a aussi travaillé.
Jusque dans les années 50. C'est ça. Hein, mais donc c'est un milieu que Cohen connaissait très bien et dont il fait une satire absolument désopilante, courtelinesque parfois, mais bien au-delà de courteline, car dans fonctionnaire international, le mot fonctionnaire a ici une dimension presque existentielle ou philosophique. Adrien est un homme qui n'existe que par des fonctions que par ailleurs il n'accomplit pas, il ne remplit guère.
Oui. Il y a une scène qui est un grand moment pour moi, c'est la scène où il taille des crayons.
Alors, toute l'activité d'Adrien consiste en quelque sorte à tuer le temps, à occuper le vide, et c'est d'ailleurs une gageure du point de vue littéraire que de faire des dizaines et des dizaines de pages sur ce néant. Hein, il n'y a pas la moindre action d'Adrien, il n'y a que des gesticulations. Tout le soin d'Adrien est d'arpenter les couloirs, de prendre l'ascenseur pour paraître occupé, d'aller 6 à 7 fois par jour aux toilettes pour faire quelque chose. Encore une fois, remplir le vide. Et il y a un des points culminants de l'action d'Adrien, un exploit dont il se flatte maladroitement auprès de sa femme, et d'avoir exécuté un calendrier pour 30 ans. Le calendrier de ses 30 prochaines années, des 5 années qu'il a déjà passées, de ce qui lui reste à faire. Comme si, d'une certaine manière, toute son activité consistait à, tout simplement, à tuer l'idée même de la temporalité, du devenir.
Et en même temps, ce n'est pas le néant complet, car il est velléitaire. Il y a tout un passage avec un dossier qu'il voudrait quand même traiter, puis qu'il déplace, il regrette. Enfin, il n'est pas tout à fait dans la boulie la plus parfaite.
Alors, vous avez raison, il est un médiocre au sens même... Il est médiocre dans la médiocrité, si vous voulez. Il ne va pas au bout de la médiocrité. Il y a quand même une certaine culture, il a quand même une vague compétence. Ce n'est pas un abruti. Donc même dans la médiocrité, il ne va pas très loin. C'est l'homme moyen par excellence. J'aurais presque envie de dire qu'il se situe peut-être à mi-chemin entre deux autres hommes moyens de la littérature, que sont d'une part le Leopold Bloom de Joyce. Mais c'est le Leopold Bloom de Joyce est un homme moyen, malgré tout, dans l'inventivité, dans l'ingéniosité, dans la débrouillardise. Et de l'autre, le sujet de l'empereur de Heinrich Mann, cet homme moyen qui, à la limite, je dirais, préfigure le Eichmann de Hannah Arendt, ce médiocre qui va finalement devenir un rouage d'une machine abjecte. Eh bien, on pourrait dire que Adrien est entre les deux. Il n'est pas assez inventif pour être un Leopold de Bloom. Et pas assez méchant non plus pour être un sujet de l'empereur à la Heinrich Mann. Il est juste médiocre, jusque dans le vice.
Oui, vous avez raison, il est même médiocre dans ses ambitions, car il est tout de même ambitieux. Toute son idée, c'est d'accéder au grade supérieur, c'est de se faire bien remarquer par ses chefs, dont Solal, qui est d'ailleurs son chef, puisqu'il est secrétaire général adjoint de la Société des Nations.
Oui, et c'est une ambition qui est une ambition vide, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre fin que d'arriver à un certain échelon. De ce point de vue-là, son activité n'a strictement aucun sens. Elle n'est qu'une vague escalade dans une échelle de néant.
Et sa grande passion dans cette échelle du néant, ce sont les codes, je disais dans ma présentation. Il a une grande illusion, c'est qu'il pense qu'il va accéder aux étages supérieurs en connaissant les codes, et rien ne l'enchante plus que de dire à sa femme, à un certain moment, il va en mission à l'étranger, que de lui dire, tu sais, on ne dit pas l'hôtel King David, mais les gens qui savent disent le David. Il est plein d'idées comme ça.
Il est plein de codes parce que il a une sorte de fantasme de maîtrise. De la même manière, il a remplacé l'éthique et la philosophie de l'existence par une sorte de règle morale qui est « l'homme est ses relations ». Alors non pas dans une optique philosophique au sens où nous sommes tous en relation les uns avec les autres, mais l'homme est ses relations au sens de du carriérisme, le carriérisme élevé en métaphysique de l'existence.
Alors, Adrien Dhem a une généalogie où, à mon sens, la religion compte assez peu, on en parle assez peu, et il est le fils, parlez-moi de ça, d'Antoinette et d'Hippolyte Dhem.
Alors, c'est encore un peu plus
compliqué. Fils adoptif.
Fils adoptif, ouais, c'est en effet Antoinette Dhem et sa tante, en réalité, puisque c'est un orphelin. Alors, il ne faut pas complètement oublier qu'il est orphelin, car il est... je l'ai dit, associé à une certaine carence existentielle. Et ça va même plus loin, à vrai dire. Peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir. Mais il y a, comme au détour d'une incidente dans Belle du Seigneur, une information tout à fait incroyable qui nous fait savoir que Adrien est en réalité le fils illégitime de la sœur d'Antoinette Dhem, l'affreuse Madame Dhem de Belle du Seigneur, avec un pharmacien juif. Donc nous apprenons incidemment que cet homme qui représente a priori le païen absolu, l'antagoniste absolu de Solal, eh bien c'est un demi-juif qui s'ignore. Lui qui vote pourtant Léon de Grelle, qui se satisfait des succès électoraux de Léon de Grelle, ironie suprême.
Car il est de nationalité
belge.
Voilà, nous ne l'avions pas dit. Mais est-ce que sa naissance est une... je ne me rappelle plus si c'est un fait établi ou si c'est un ragot, c'est une chose...
Non, c'est un fait établi, mais qu'il ignore lui-même. Et que toute la famille, évidemment, a pris soin de dissimuler.
Alors, je pense que Hippolyte, son père adoptif est à peu près un rien qui zozote. Il a pour à peu près unique caractéristique dans le roman de parler en zozotant et d'arriver comme un toutou en retard et en obéissant à sa femme. Et Antoinette, la terrible Madame Dum, a probablement eu une influence considérable sur Adrien, puisqu'on voit au fur et à mesure du roman qu'il reproduit beaucoup de ses vices.
Il reproduit beaucoup de ses vices. Alors, Antoinette Dum est un personnage qui à elle seule justifierait un développement, mais disons, pour aller vite, que la différence entre Antoinette Dum et Adrien Dum, c'est qu'Antoinette Dum n'a pas un soupçon de complexité, c'est-à-dire qu'elle est un repoussoir absolu, hein, elle est hideuse moralement, alors que, nous allons le voir, malgré tout, il y a des éléments qui viennent nuancer le portrait d'Adrien et parfois aller jusqu'à lui attirer la sympathie du lecteur.
Alors, il faudrait dire un mot que, comme dans toutes les bonnes histoires de cocuage, le cocu est au courant, car il y a une scène de dîner où Solal dit d'un air un peu mélancolique « Ah, et je suis amoureux d'une femme mariée ». Évidemment, c'est Ariane qui est l'épouse légitime d'Adrien et l'autre ne se doute de rien.
Alors, nous avons... on oublie parfois que Albert Cohen, avec toute la dimension épique et lyrique qui le caractérise, a aussi quelque chose de Phédo. Et il organise la rencontre d'Ariane, d'Adrien et de lui-même, donc, comme, et de Solal, pardon, comme Phédo organise ses scènes de cocufiage, c'est-à-dire qu'il rend possible le croisement de ces trois figures avec toutes sortes d'invraisemblances. Quand on regarde dans le détail, c'est totalement invraisemblable. Et il pousse le sadisme jusqu'à faire d'Adrien le complice de Solal, hein, cocu mais content, hein, puisque il se croit au fond gratifié par son supérieur hiérarchique, alors même qu'il est sur le point d'être cocufié.
Nous allons entendre un extrait de la musique composée par Gabriel Yared pour le film Belle du Seigneur. Elle date donc de 2013. Philippe Zin, pour Adrien Dum, tout, vous l'avez évoqué dans la première partie de ce personnage en personne, tient au social. Et le social, c'est une des grandes irritations d'Albert Cohen, en général dans toute son œuvre.
Il y a chez Albert Cohen, au fond, deux grandes puissances, qui sont le sexuel et le social. Et parfois, ces deux grandes puissances, en quelque sorte, se combinent. Et c'est encore plus redoutable, parce que le sexuel se nourrit de social, ou le social se nourrit de sexuel. Et on le voit très bien dans le rapport entre Solal et Adrien Dum. Adrien Dum commence par détester Solal, c'est son supérieur hiérarchique, il ne le connaît pas, et en plus, Adrien Dum est antisémite. Dès lors que, de manière absolument intéressée, bien sûr, mais il ne le sait pas, Solal le favorise, il devient philosémite, comme les femmes deviennent philosémites quand elles sont amoureuses, et il se passe quelque chose qui est extraordinaire dans Belle du Seigneur, c'est qu'au fond, la conquête d'Ariane par Solal est précédée par la conquête d'Adrien par Solal. Et il y a un passage absolument incroyable où l'on voit Adrien comme une sorte de jeune vierge conduite à l'autel devant Solal, éblouie hein, par la force et la prestance de son chef, avant même la conquête d'Ariane, encore une fois, c'est-à-dire que la conquête homosexuelle d'Adrien a précédé la conquête galante et amoureuse d'Ariane.
Ça participe de ce que Solal lui-même appelle la babouinerie, c'est-à-dire l'admiration de la force et la flatterie de la force.
Tout à fait. Cohen jette sur cette réalité, au fond, une sorte de triple regard, un regard, je dirais, prophétique, qui voit dans le culte de la force et de la hiérarchie un avatar de l'idolâtrie et du paganisme, un regard politique, profondément, qui voit, au fond, dans cette révérence, dans cette déférence hiérarchique, quelque chose comme le germe de notre fascisme intime, et donc des fascismes à venir, et un regard presque d'éthologue ou de zoologue. Nous sommes tous des descendants de primates, et nous avons encore ce cerveau de babouin, et il y a des descriptions de la Société des Nations comme d'une faune, comme d'une jungle dans laquelle, au fond, il n'est question que de mâles dominants et de mâles dominés qui prennent des postures de soumission. Le regard de Cohen est absolument impitoyable sur ce manège de la hiérarchie humaine.
Alors, pour ce qui est de l'antisémitisme, je crois qu'il faudrait dire que, parce que ça se passe entre les deux guerres, ça peut laisser penser que Adrien est un antisémite déchaîné. Ce qui n'est pas son cas, c'est même pas tellement marqué dans le livre, c'est un peu comme ça, c'est pas, enfin, je dis pas que c'est mieux, mais c'est un peu un antisémite de salon, comme il serait n'importe quoi de salon, non?
Tout à fait. Il est antisémite par conformisme, comme il est conformiste en tout. Il est toujours à la remorque de la dernière mode, du dernier slogan, du dernier courant artistique. Et il est aussi antisémite parce que tout le monde l'est plus ou moins à son époque. Mais comme je le disais tout à l'heure, même dans le vice, il ne va pas très loin, Adrien.
Alors, il faut quand même un peu sauver ce pauvre crapaud d'Adrien II, donc il devienne un prince à la fin. Mais enfin, dans les 9 dixièmes du récit qui le concerne, il est effectivement ridicule et comique. Mais dans la toute fin, c'est-à-dire quand il revient de la mission où Solal l'a envoyé à l'étranger, il y a un très beau passage d'ailleurs en train où il revient. Et puis le matin du retour, il va frapper à la porte de sa femme avec le plateau du petit déjeuner. Il trouve une note où Ariane lui dit qu'elle le quitte et qu'elle a connu un seul amour, c'est Solal pour qui elle le quitte, et c'est là qu'il se suicide. Ça montre que malgré tout, il a quand même du sentiment et que tout n'est pas social.
Adrien est en quelque sorte, même s'il est un piètre amant, il est quand même un mari aimant. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et ça le rachète, d'une certaine manière. Et je dirais que quand on lit Belle du Seigneur, il y a 3 moments tout à fait intéressants. Il y a un premier moment qui est bien avant le drame, qui est le moment où, le lendemain d'un jour où Adrien a été contrarié, il est très préoccupé, etc., et où il va essayer de se faire consoler par sa femme. Il tape à sa porte, mais il est trop tard, Ariane a sommeil. Et alors le pauvre Adrien se fait littéralement humilier, écrasé par Ariane. Et là, tout à coup, le regard du lecteur change et Adrien commence à devenir un peu pathétique. Et le deuxième moment...
Pardon de l'interrompre, c'était dans une intention lubrique. Il grattait à la porte de sa femme parce qu'il voulait coucher avec Ariane.
Non, il voulait être consolé à ce moment-là. Non,
ah, c'est pas la scène
non.
Où... Ah, ça, vous parlez...
Alors, il y a des scènes absolument désopilantes, en effet, où c'est le petit coq. Alors là, je laisse au lecteur le soin de découvrir s'il n'a pas découvert déjà ces scènes. Mais, par exemple, le fait que Adrien, lorsqu'il a un prurite érotique, se met à éternuer systématiquement, son côté canin, caniche, en rut, etc. Tout cela est délicieux. Non, mais le passage en question, c'est un passage de consolation qui échoue. Et le deuxième passage, c'est juste après la conquête d'Ariane. Et alors là, il y a le chapitre 36, qui est absolument extraordinaire dans Belle du Seigneur, qui est une sorte de cantate à 3, où il y a la valse de Solal et d'Ariane, entremêlée au monologue intérieur d'Adrien dans le train.
C'est d'ailleurs le chapitre où se trouve l'expression Belle du Seigneur, le 36e.
Tout à fait. Et alors, c'est extraordinaire parce que nous sommes à la fois appelés à communier dans l'amour triomphal, triomphant de Solal et d'Ariane, et à compatir avec le sort de ce pauvre bougre qui ne sait pas qu'il est cocu et qu'il a été joué. Et enfin, en effet, ce passage absolument formidable de la découverte par Adrien, du départ de sa femme, et là, tout à coup, le regard change. Adrien n'est plus un pauvre type, ou s'il est un pauvre type, c'est au sens où nous sommes tous des pauvres types, et où il est un frère humain, comme dira plus tard Albert Cohen. Et c'est très important de le savoir parce que c'est dans cette communion dans la souffrance que nous pouvons retrouver l'humanité d'Adrien et aussi que nous pouvons nous affranchir peut-être de ce qu'on pourrait appeler un regard un peu trop confortable sur Adrien, qui voudrait laisser croire que Adrien est tout à fait différent de nous. En réalité, nous comprenons que Adrien, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui, dès que nous commençons à être petits, dès que nous commençons à penser petitement, à vivre mesquinement, à avoir des pensées plus ou moins minables, mais c'est le lot quotidien de chacun d'entre nous. Et là, nous comprenons que Adrien n'est pas seulement un mauvais objet, hein, mais qu'il est aussi un des aspects de ce que nous sommes. Et Cohen, qui a dit à l'occasion « Je suis Ariane dans son bain », a dit aussi à une autre occasion qu'il était aussi Adrien, et que lui aussi a été ce fonctionnaire, et peut-être aussi ce carriériste qu'il dépeint en ce personnage.
D'ailleurs, il est si peu minable à la fin qu'il a une réflexion quand il découvre que sa femme le trompe. Il dit à ce moment-là, c'est une fille bien.
Oui, et il devient intelligent par la souffrance. Alors, petite nuance, je dirais que même là, malgré tout, Cohen se plaît à retourner les choses, c'est-à-dire que le pauvre Adrien, qui n'est vraiment pas doué, va jusqu'à rater son propre suicide, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas. Et on apprend par la bande, en quelque sorte, beaucoup plus tard, que quelques mois après, il s'est remis de sa peine et il a finalement bien redémarré sa carrière. Donc même là, je dirais, on a eu du mépris pour lui, de la pitié pour lui, mais la pitié ne dure pas non plus, parce que après tout, c'est quand même un babouin qui finira par s'en sortir.
Enfin, moi j'aime bien garder l'idée qu'il est devenu une espèce d'enfant poétique quand même, et il y a une chose qui est assez frappante, je disais dans ma présentation qu'il a gardé son ourson d'enfant et sa peluche, ce que je trouve assez touchant. Il a toujours vécu au fond dans un monde régressif où sa mère lui imposait des codes, il est toujours resté un enfant, et la chose que je trouve assez belle, c'est qu'au moment où il lit la note, une chose se passe, c'est qu'il se fait pipi dessus comme un petit garçon, et je trouve ça assez très beau.
Alors, tous les personnages de Cohen qui sont dignes d'empathie, de sympathie, le doivent aussi à cette enfance et à cet enfant qu'ils ont été. Et Ariane est une femme enfant, hein, nous le savons, elle a même sa fontanelle. Et tous les personnages, jusqu'à Salomon, le personnage valeureux de Cohen, qui est une sorte d'homme-enfant, hein, et tous les valeureux sont de vieux enfants. Donc en effet, la part d'enfance est ce qui, irréductiblement, chez Cohen, fait de nous des humains.
Philippe Zarre, que vous a appris le personnage d'Adrien Deum ?
C'est compliqué, mais je dirais que, d'abord, c'est un personnage qui nous apprend la modestie. On commence par rire d'Adrien Deum, on finit par se reconnaître en Adrien Deum. Il y a toujours un Adrien Deum qui sommeille en nous. Toujours un petit coq, toujours un ambitieux, toujours un médiocre qui sommeille en nous. Donc, d'une certaine manière, oui, on se fantasme Solal, mais nous sommes beaucoup plus proches d'Adrien Deum.
Comme si j'étais assis là-haut. Paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée de programme Meryl Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
Ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
Un grand jeudi. Tous les jours. De la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers.